Voilà, alors bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer dans l'évangile de Jean, toujours au premier chapitre. Donc nous avons étudié la fois précédente le prologue de l'évangile de Jean, prologue qui est une œuvre d'une très haute théologie. J'avais évoqué à ce propos-là le dire du moine irlandais Jean Scott Erigène qui parlait de l'oiseau mystique qui avait été mis en présence des réalités ineffables. Donc, un prologue d'une haute teneur théologique, très haute même. On peut dire que le prologue, c'est vraiment le sommet de l'Évangile. Mais ce premier chapitre, donc, à partir du verset 19, nous entraîne dans le témoignage de Jean-Baptiste. Le témoignage de Jean-Baptiste et la rencontre du Christ avec ceux qu'il va appeler pour être ses disciples. Alors, le témoignage de Jean-Baptiste, il est extrêmement important. Il y a un exégète britannique qui s'appelle Charles Dodd, D-O-D-D, qui a parlé d'un prologue historique, qui a dit, au fond, si on regarde comment est construit l'évangile de Saint Jean, on a un prologue théologique, un prologue historique, enfin c'est lui qui nomme ça prologue historique, on peut toujours contester cette affirmation, mais je pense personnellement qu'elle a une certaine pertinence. Ensuite, on a le livre des signes. Vous savez que dans Saint Jean, il y a sept signes, sept séméia. Donc, et le livre des signes va s'ouvrir avec les noces de Cana. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le livre de la gloire, avec l'ensemble du récit qui culmine sur la grande prière sacerdotale, le récit de la passion, la mort et la résurrection. Alors, la deuxième partie du premier chapitre commence au verset 19 et se termine au verset 51. Mais, dès le prologue, c'est caractéristique, on a l'irruption, si j'ose dire, du Baptiste, le précurseur. Hein. Au verset 6 à 8, on parle de lui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Alors, on constate déjà que témoin, témoignage, c'est tout à fait primordial dans ces deux versets. Plus loin, toujours dans le même prologue, Jean lui a rendu témoignage. Revient sur cette notion de témoignage, parce que à la personne du Baptiste est vraiment intrinsèquement liée la question du témoignage. Le précurseur, le plus grand parmi les fils des hommes, comme il est dit dans l'Évangile, le précurseur, c'est celui qui rend témoignage à celui qui, bien que chronologiquement venant après lui, était avant lui. Donc c'est vraiment, cette question du témoignage est extrêmement fondamentale pour comprendre le rôle du précurseur. C'est pour ça que le verset 15 reprend « Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et puis, à partir du verset 19, on répète encore le martyria, donc le témoignage. Donc vous voyez déjà, sur quelques versets dans le prologue, le terme de témoignage est redondant, et à partir du verset 19, on va entrer dans la substance même de ce témoignage que Jean-Baptiste porte au Christ. Alors, on peut considérer qu'il y a un ensemble d'unités littéraires qui sont hautement significatives dans cette deuxième partie du premier chapitre qui va du verset 19 au verset 51. Une première partie à considérer nous emmènera du verset 19 au verset 28. Ah oui, alors, j'oubliais une chose en termes de méthodologie. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'interrompre, posez vos questions. Il n'y a pas... Vous pouvez le faire à la fin, mais même dans le cours de l'exposé, vous pouvez très bien intervenir. Donc, du verset 19 au verset 28, il y a un premier ensemble de versets qui nous renvoient à un certain nombre de questions. Alors, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» On est déjà confronté à quelque chose qu'il faut bien appeler un interrogatoire. Il y a Jean qui est dans son désert, qui accomplit des actes, et de Jérusalem, une délégation de prêtres et de Lévites est envoyée pour le questionner sur qui il est. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ben, déjà, ça nous donne une indication précieuse sur l'attente messianique. Au moment de l'incarnation, au moment où le Christ, Verbe éternel de Dieu, naît dans l'humanité, eh bien, à ce moment-là, dans la terre d'Israël, il y a une très forte attente messianique dans différents milieux du judaïsme. Je vous rappelle que le judaïsme de ce temps est très pluriel. Le judaïsme après la destruction du deuxième temple en 70 par les Romains, c'est une fraction du judaïsme, c'est les pharisiens qui vont triompher, qui vont éliminer les autres tendances du judaïsme, la prêtrise du temple, bien sûr, qui ne pouvait plus exercer, les sadducéens vont disparaître, les esséniens aussi, mais en ce temps d'attente messianique, les tendances à l'intérieur du judaïsme sont très plurielles. Et il y a vraiment une très forte attente du Messie, pour des raisons qui ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Saint-Luc nous dit, au chapitre 3, verset 15, « Le peuple était dans l'attente et tous dans leur cœur se posaient des questions sur Jean, ne serait-il pas le Messie ?» Voilà, donc, la délégation arrive auprès de Jean et c'est la question qui va venir tout de suite. « Toi, qui es-tu ?» La question qui est posée au verset 20. Toi, qui es-tu ? Donc, c'est la preuve de cette attente. Cette attente messianique, elle est plurielle. Il y a une partie des Juifs qui souhaitent l'arrivée du Messie. Tous souhaitent l'arrivée du Messie. Mais il y a différentes conceptions de la messianité. Il y en a une qui est très, somme toute, politique. C'est-à-dire que on veut... que le roi Messie, parce que le Messie et le roi, c'est des fonctions qui sont tenues ensemble par le même homme, le Messie va rétablir la royauté d'Israël, va chasser l'occupant romain et rétablir donc la liberté d'Israël. Donc là, c'est une conception, somme toute, assez politique. Et puis, il y a aussi les pauvres du Seigneur dont parle l'évangile de Saint-Luc, hein, au deuxième chapitre, les versets 25 à 38, on parle des pauvres du Seigneur qui attendaient la consolation d'Israël et la délivrance de Jérusalem. Et parmi ces pauvres du Seigneur, il y a le reste dont on parle, évidemment. Alors, ça explique que cette tension messianique... à cause de cette tension messianique, Jean-Baptiste est confronté à un interrogatoire. Ça ressemble, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais ça ressemble quand même à un questionnement qui est posé dans un procès. Il y a des questions impératives, on veut savoir, et puis peut-être que les prêtres et les lévites envoyés de Jérusalem sont inquiets, parce que devant cette attente messianique et le foisonnement qui en résulte, peut-être qu'ils, quelque part, il déploie une forme d'inquiétude. À la question « Qui es-tu ?», Jean-Baptiste va répondre de la manière suivante. « Toi qui es-tu ? Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. » Donc, il affirme qu'il n'est pas le Messie. Messie, Mashiach, Christos, c'est loin, O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction. Donc, il y a une équivalence dans la terminologie entre Mashiach hébreu et Christos en grec. Il dit non, qu'il n'est pas le Messie. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc, es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, que dis-tu de toi-même ?» Alors là, il y a trois choses, trois termes importants à retenir. C'est les termes, bien sûr, de Messie, Élie et prophète. Parce que ça joue un grand rôle dans cette attente messianique. Le Messie, donc j'en ai parlé, et Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas le Messie. Il n'est pas celui que tout Israël attend. Élie, le prophète Élie, celui qui a été enlevé sur un char de feu, bon, il est lié au Messie Élie. Parce que c'est lui qui vient annoncer la venue du Messie. Ce prophète Élie, alors il y a plusieurs traditions dans le judaïsme à ce propos-là, mais ce prophète Élie, il est celui qui revient pour annoncer la venue des temps messianiques. Donc Élie, il est lié aussi à la vision apocalyptique des fins dernières, des temps messianiques, qui... Le temps messianique et l'apocalyptique sont liés. Hein. C'est indissolublement lié. Et Élie vient annoncer ces temps qui arrivent avec... Il prépare la venue du Messie qui inaugure le temps apocalyptique. Le troisième terme, c'est le prophète. Alors le prophète, ça renvoie au Deutéronome. Vous savez que dans le Deutéronome, on parle du... Moïse parle en disant « Je vous enverrai de parmi mes frères un prophète ». C'est le prophète des derniers temps. Je crois que c'est au chapitre 18, si mes souvenirs sont exacts. Je vais essayer de le trouver. Nombre, Deutéronome, 18... Regardez si vous avez des Bibles aussi en main, regardez. C'est important de se repérer. Ça doit être 18-15, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, c'est normal de ce point de vue-là que la délégation des prêtres et des lévites posent la question, posent les trois questions. Es-tu le Messie ? Bon, Jean-Baptiste répond non, je ne suis pas le Messie. Alors, es-tu Élie ? Celui qui vient préparer la voie au Messie, qui revient plus exactement et qui prépare la voie au Messie ? Non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète ? Sous-entendu celui qui était annoncé par Moïse, qui serait pris, que Dieu a annoncé, qui serait pris d'entre les frères de Moïse. Et non, je ne suis pas le prophète. Et alors, à ce moment-là, tout le monde est déconcerté, Et l'interrogatoire porte sur la question du titre de Jean-Baptiste. Mais alors toi, qui es-tu? Si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète, si tu n'es pas le Messie, eh bien, qui es-tu véritablement? Et là, le Baptiste va répondre, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Alors, comment dire, j'ai un petit trou de mémoire là, mais oui, sur le, il y a un verbe dans le grec qui est un terme. Alors attendez, je vais essayer de retrouver. Kekragen, il a crié en disant. Voilà. C'est donc au verset 15, au verset 15, on revient là, mais dans le prologue, mais sur le témoignage du Baptiste. Donc ce verbe renvoie à, c'est un terme technique qui est utilisé dans la prophétie, c'est le fait de crier. La voix du prophète qui crie, qui annonce, hein, puisque le prophète porte l'annonce de la parole divine et appelle le peuple à la fidélité, à renouer la fidélité dans l'alliance. Et donc, après avoir dit ce qu'il n'était pas, le Baptiste dit « Je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez ou redressez ». On trouve des variantes également de ce point de vue-là, redresser le chemin du Seigneur, aplanisser le chemin du Seigneur. Alors, on remarquera que tout de suite après, il y a le verset 25, « Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Là, il y a une petite interrogation à avoir, parce qu'on nous a dit précédemment que la délégation de Jérusalem était composée de prêtres et de lévites, et voici maintenant que interviennent les pharisiens. Alors, on peut se poser la question du pourquoi de cette intervention des pharisiens, parce que vous savez que les prêtres et les lévites, pour l'essentiel, appartenaient donc à la caste des Sadducéens, ceux dont l'Évangile nous dit qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. C'était la caste des serviteurs du temple, hein, les prêtres et les lévites, chargés, les prêtres chargés du sacrifice, les lévites donc qui avaient un rôle sacerdotal mais secondaire par rapport aux prêtres, et les pharisiens étaient très souvent en opposition avec la caste du temple. Les pharisiens étaient une organisation très très puissante qui avait en quelque sorte pour but d'étendre. Les pharisiens, c'est les perushim en hébreu, c'est-à-dire les séparés. Hein. Donc les perushim avaient comme objectif d'étendre la sacralité du temple avec toutes ces règles rituelles extrêmement précises de purification, d'étendre cette sacralité du temple à toute la société d'Israël. Et donc, ils s'opposaient assez largement à la caste du temple, aux prêtres et aux lévites, mais en même temps, il est tout à fait probable qu'ils avaient des partisans à l'intérieur, ce n'était pas des mondes étanches l'un par rapport à l'autre, ils avaient aussi des adeptes dans ce milieu-là. Donc c'est comme ça que moi j'interprète le fait que Jean nous dit « Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens ». Alors, les pharisiens, ils vont poser la question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean va leur répondre, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Alors ça, c'est assez mystérieux, cette affaire de la... de « je ne le connaissais pas ». Bon, je ne sais pas si ça vous frappe, mais bon... Dans l'une des traditions juives, il est dit, et d'ailleurs c'est rapporté par saint Justin martyr dans le dialogue avec le rabbin Tryphon, que le Messie ne se connaît pas lui-même tant qu'Élie n'est pas venu pour lui préparer la voie. Hein? Tant qu'il ne s'est pas avancé devant lui, le Messie n'est pas connu et ne se connaît pas lui-même. Et donc ça fait écho. Enfin, Justin, martyr, fait écho à ça, pardon, vous voulez parler ?
Moi ? Oui,
si vous avez une question, allez-y.
Oui, par rapport à cette question, justement, comment se fait-il que pour qu'on puisse lui poser cette question de savoir éventuellement de le confondre avec Élie, puisque je ne pense pas qu'ils étaient contemporains, donc je ne comprends pas très bien cette question.
Si vous voulez, le problème, c'est que Élie, bon, il s'en va. Bon, vous souvenez du récit, le départ d'Élie sur un char de feu après la transmission du pouvoir prophétique à Élisée. Bon, et les conditions même de son départ et de son retour ne sont pas du tout connues. C'est très mystérieux. Alors bon, l'attente messianique qui est portée en Israël à ce moment-là, on imagine beaucoup de choses. Mais ce qu'on sait, c'est que Élie, il précède la venue du Messie. Élie, c'est l'annonceur. C'est lui qui revient et qui précède le Messie. Et qui fait que le Messie se connaît comme Messie lui-même grâce à la venue d'Élie. Hein? Bon. Donc, voilà, c'est les questions... Les questions qui sont posées par les prêtres et les lévites, d'un côté, et les pharisiennes de l'autre, bien qu'elles aient presque une tournure qui renvoie à un interrogatoire de tribunal, si j'ose dire, elles sont quand même tout à fait légitimes. Ils veulent savoir qui est ce Jean qui baptise au bord du Jourdain. Ils veulent absolument le savoir. Et ils ne sont pas... Ils restent sur leur faim, d'une certaine manière, puisque Jean dit « Je ne suis ni le Christ, ni Élie, ni le prophète dont parle Moïse dans le Deutéronome. » Bon. Donc, à ce moment-là, on lui demande à Jean-Baptiste « Mais pourquoi baptises-tu ? Au nom de qui ? Et pourquoi tu baptises ?» Alors là, il faut se souvenir que le baptême de Jean, qu'est-ce que c'est ? Le baptême de Jean, c'est un baptême d'eau. Jean baptise dans le désert au Jourdain. Donc, c'est un baptême de repentance qui s'adresse à tout Israël. Or, cette pratique-là pose problème aux prêtres, aux lévites et aux pharisiens. Parce que le bain rituel, il était extrêmement codifié dans l'Ancien Testament. Le bain rituel, c'est un bain de purification, bon, qui est pratiqué toutes les fois qu'on rentre en contradiction avec les règles de la pureté rituelle, telles qu'elles sont décrites dans le Lévitique, notamment. Et le bain rituel est d'autant plus sévèrement codifié pour la caste des prêtres et des lévites qui servent au temple. Bon. Ce bain rituel, il est aussi prescrit aux femmes après leur menstrue. Bon. Donc, elles ont besoin de se purifier. Bon, c'est le bain qu'on appelle le mikvé. Le mikvé, c'est ce bain de purification. Et le bain, également, il est nécessaire aux prosélytes qui vont rentrer dans le judaïsme. Hein, on doit passer par cette purification. Mais les pharisiens, bon, ils le savent ça, puisqu'ils connaissent vraiment de manière très très précise les règles de la purification, qui, encore une fois, je le répète, ils veulent l'étendre à toute la société d'Israël, que la rigueur des règles de la purification qui s'applique à la caste du temple, ils veulent l'étendre à tous. Hein. Donc, ils mettent en cause Jean qui pratique ce bain de repentance pour tout Israël, parce que Jean veut appeler tout Israël à la repentance. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le bain, le baptême que Jean le Baptiste pratique, c'est, il le fait une fois. Il n'est pas répétitif, ce baptême. Et il est... il y a un élément aussi qui est très, très intéressant à considérer, c'est que il se pratique dans le Jourdain. Donc, Jean-Baptiste est au désert, il descend au bord du Jourdain, il baptise. Et on nous dit dans le texte que tout ceci, un peu plus loin, se passait... Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Bétabara, c'est une variante dans le texte qui renvoie au lieu du passage. Béthanie, alors il y a deux Béthanies. Hein. Il y a le Béthanie qui est non loin de Jérusalem, hein, là où le Christ va passer chez Marthe, et Marie et Lazare, pour, quand il va monter... à Jérusalem pour y subir sa passion, et il y a un Béthanie en Transjordanie. Et Saint Jean est précis, parce que c'est quand même bien localisé, nous dit tout ça, ça se passait là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la variante Bétabara, lieu du passage, ça nous renvoie, c'est une réminiscence du passage des Hébreux en terre promise, avec Josué. Vous vous souvenez que Moïse n'est pas rentré en terre promise. C'est Josué qui va rentrer à la tête des Hébreux. Et donc, quand Jean le Baptiste pratique son baptême de repentance, il y a l'idée aussi que, par le lieu du passage, on rentre en terre promise. Donc, on refait d'une certaine manière le déroulement historique de l'entrée en terre promise. Et on voit très bien qu'il y a là, de manière très présente, comme une figure, la notion de passage qui va être si importante dans le baptême de l'Esprit pratiqué par le Christ lui-même. Puisque dans le baptême du Christ, donc moi je baptise d'eau et lui il baptise d'eau et d'esprit, dans le baptême du Christ, il y a bien la notion de passage. On passe dans l'eau. L'eau, elle est à la fois synonyme de mort et de vie. Hein. L'eau, ça peut donner la mort, et c'est la source de la vie. Bon, donc, on descend dans les eaux baptismales, on passe à la suite du Christ dans la mort et dans la résurrection du Christ. Hein. Donc, cette notion de passage, elle nous renvoie aussi au baptême de Jean et elle nous renvoie au passage du Jourdain lorsque les Hébreux sont entrés dans la Terre Sainte. Alors voilà, ça c'est le premier, c'est le premier moment de ce chapitre, donc les versets 19 à 28, le témoignage de Jean devant les prêtres. Il y a un deuxième moment, c'est à partir du verset 29 au verset 34, je les lis, le lendemain, alors là c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir le nombre de jours, hein. Il y a cette notation à l'indicatif temporel, le lendemain, te eporion, au verset 29, 35 et 43. Donc ça permet de séquencer le texte. voyez qu'au verset 29, on nous dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit. » Au verset 35, c'est répété, « Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. » Et au verset 43, « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. » Donc on a des séquences qui sont bien marquées. Et à travers ces séquences, va être déployée toute une série de titres christologiques qui eux-mêmes vont annoncer tous les développements ultérieurs des grands thèmes que porte l'Évangile. C'est pour ça que l'exégète dont je parlais tout à l'heure, Charles Dodd, a appelé ce chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 51 le prologue historique, hein, par rapport au prologue de haute théologie des versets 1 à 18. Donc il y a quatre unités qui se détachent, 19-28, 29-34, 35-42, 43-51. Alors, on a vu 19-28, le témoignage de Jean, devant les prêtres et les lévites et les pharisiens. 29-34, c'est le témoignage de Jean en vue de la révélation à Israël. Ça, c'est évidemment très important. Alors, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Donc, il prépare le précurseur, il est vraiment celui qui prépare la venue du Messie, comme Élie, en quelque sorte, revenait plus exactement pour préparer le chemin du Messie. Là, Jean-Baptiste joue très ouvertement ce rôle. Alors, vous voyez, il y a un terme qui saute tout de suite aux yeux, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est très intéressant parce que, d'abord, le péché en question, il est nommé au singulier. Il est nommé au singulier, mais il englobe tous les péchés des hommes. Le péché du monde, ça englobe la totalité des péchés des hommes. Et l'expression « agneau de Dieu », c'est quelque chose qui doit quand même nous interpeller, parce que elle n'est pas très fréquente, cette expression.
Quelle est, Père, la première occurrence?
Je ne sais pas très bien.
Vétérotestamentaire, il me semble que c'est chez Isaïe.
Oui, c'est oui dans Isaïe, ah, oui, bien sûr. Oui,
on s'en sert pour la
prothèse. Oui, bien sûr. Oui, puisque dans la prothèse eucharistique, quand on prépare la divine liturgie, la prothésis, c'est la préparation, quand on découpe l'agneau, on utilise des versets du prophète Isaïe. Donc, tout ce rituel, disons, se fait avec des versets bibliques, et c'est justement à ce moment-là que Isaïe est convoqué pour donner... les versets d'Isaïe sont dits en même temps qu'on accomplit les gestes qui consistent à préparer l'agneau. Donc, on ne sait pas très bien... en dehors, disons, du texte d'Isaïe, comment fonctionne cette image de l'agneau. Par contre, l'agneau de Dieu, bon, d'abord, il est qualifié d'agneau de Dieu. Donc, on unifie, là, dans les versets de saint Jean, des différentes images. Bon, c'est l'agneau pascal, hein, l'agneau pascal qu'on trouve dans le livre de l'Exode. Hein, vous vous souvenez que dans le livre de l'Exode... Donc, il y a le repas de la Pâque qui est constitutif du peuple hébreu qui va quitter la servitude d'Égypte et guidé par Dieu et le prophète Moïse va pérégriner dans le désert pour aller vers la terre promise. Donc, à ce repas pascal, on consomme l'agneau. Donc, il y a l'agneau pascal, il y a l'agneau du sacrifice au temple. On sacrifiait l'agneau au temple tous les jours. Et ce thème de l'agneau est très souvent évoqué. Pardon ? Oui, bien sûr, parce que, bon, disons, le sacrifice de l'agneau, c'est un sacrifice de substitution par rapport au peuple qui environnait Israël, qui pratiquait, eux, des sacrifices humains. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, voilà, on unifie dans ce récit l'agneau pascal, on réunit plus exactement l'agneau pascal du livre de l'Exode, l'agneau sacrifié au temple, les sacrifices du temple, mais le thème de l'agneau comporte aussi un versant apocalyptique. Hein. Dans l'image de l'agneau triomphant, elle est déjà dans des récits de l'Apocalypse. D'apocalypse juive, parce qu'il y en a plusieurs, et évidemment, l'agneau triomphant, il est en majesté dans l'Apocalypse de Saint Jean. Dans la Nouvelle Jérusalem, on adore Dieu et l'agneau, c'est l'agneau triomphant, l'agneau immolé depuis la fondation du monde, mais qui a triomphé. Et c'est le thème d'ailleurs de l'agneau triomphant est très présent dans l'iconographie médiévale en Occident. Donc, c'est tout ça, l'agneau. Et voilà que Jean-Baptiste s'écrit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, enfin, qui ôte le péché du monde. Hein ? » Lui, il ôte le péché du monde. C'est bien dit, c'est bien le verbe « ôter ». Alors là, donc, nous sommes au verset 29, c'est bien le verbe ôter, enlever, qui est utilisé dans le texte grec. Et c'est très important, puisque c'est l'agneau de Dieu qui triomphe du péché, qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Ensuite, Jean-Baptiste continue en disant « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Alors, s'agissant de l'agneau, j'ai quelques références à vous donner aussi. C'est dans les chants du serviteur, vous savez, dans le livre d'Isaïe, il y a ce qu'on appelle les chants du serviteur souffrant. Donc en Isaïe 42, 49, 50 et 53, il y a quatre chants du serviteur souffrant qui sont au cœur du livre de la consolation d'Israël. Donc ce qu'on appelle le livre de la consolation d'Israël, c'est la partie du livre d'Isaïe qui va des chapitres 40 à 55. Donc le serviteur souffrant, il accomplira le nouvel exode pour la libération d'une multitude d'hommes. Et le Christ, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'offrir dans un sacrifice d'amour sur l'arbre de la croix comme l'agneau substitué à l'homme. Alors, il y a la distinction qui est opérée par Jean-Baptiste lui-même entre le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Et nous savons que si le baptême d'eau qui est donné par Jean-Baptiste opère déjà un retournement dans le cœur de l'homme, pénitent, Bien sûr, combien plus le baptême de l'Esprit accomplira-t-il ce retournement qui se nommera « Nouvelle Alliance » en ceux qui se livreront à l'Esprit. Il y a un lien très étroit entre cette notion de baptême dans l'Esprit que le baptême d'eau du Baptiste annonce, préfigure, qui est pratiqué par le Christ, que Jean-Baptiste annonce en disant « Il vient chronologiquement après moi, mais il était avant moi. » Et tout se tient, c'est-à-dire que ce baptême fait entrer dans une alliance nouvelle, le baptême de l'Esprit fait entrer dans une alliance nouvelle, et ce baptême, il est la préfiguration des noces. Parce que à la notion d'alliance est liée vraiment consubstantiellement la notion de noces. L'alliance s'est faite pour les noces entre Dieu et son peuple, entre le Christ et l'Église, entre le Christ et chaque âme chrétienne. Donc, il y a un lien, si vous voulez, entre le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit, et l'annonce à partir du baptême de l'Esprit de la Nouvelle Alliance et de ce qui va suivre au deuxième chapitre des noces de Cana. Eau, Esprit et le vin des noces de Cana, le vin de l'Alliance Nouvelle, qui avait été prophétisé par Jérémie. Alors, quelque chose de très important à souligner aussi, c'est que de ce fait, au Jourdain, se révèle l'onction messianique du Christ, parce qu'on connaît le dialogue dans le baptême. Au Jourdain, c'est la première manifestation de la Sainte Trinité. Le Père parle, le Fils descend dans les eaux, et l'Esprit est là. L'Esprit de Dieu qui était à la surface des eaux dans la Genèse, eh bien, il est là à nouveau, il descend tel la colombe, il descend sur celui qui reçoit le baptême, bien qu'il n'en avait pas besoin, mais il refait le parcours. Et donc c'est une théophanie, véritablement une théophanie, avec un dévoilement du mystère de Dieu, puisque les trois personnes divines sont présentes dans le baptême au Jourdain. Le Père parle, le Fils est là qui reçoit le baptême, et l'Esprit descend sur le Fils, et c'est la descente de l'onction messianique sur le Fils, mais de manière visible, aux yeux de tous, alors que Jean-Baptiste accomplit ce baptême. Au Jourdain se révèle l'onction messianique. Donc, ça veut dire l'imprégnation de la nature humaine par la divinité du Verbe, Fils du Père, dans la plénitude de l'Esprit. Donc, c'est grandiose. Hein, la scène est vraiment grandiose. On avait au premier verset du prologue déjà la révélation de ce que Dieu est unique mais qu'il n'est pas seul, qu'il est une communion d'amour de trois personnes, le Père qui est la source, le Fils qui est engendré du Père de toute éternité, l'Esprit qui procède du Père de toute éternité. Et là, on a une manifestation à nouveau, une théophanie. Là, on a la première théophanie dans l'évangile de Jean, avec les trois personnes de la divine Trinité qui sont là. Donc, les textes à la fois qui sont utilisés, qui sont sous-jacents ou dont la terminologie est utilisée dans ce premier chapitre de l'Évangile de Jean, la référence au chant du serviteur souffrant, d'autres textes comme celui de d'autres références que je vais vous citer, les Actes 10, 36, 38, Luc 4, 1, Saint Jean également au chapitre 3, versets 34-35, ces textes disent que Jésus a vécu son baptême dans l'esprit au Jourdain, comme l'onction messianique qui manifeste en sa personne divine et sa mission de serviteur. Là, c'est vraiment tout à fait ça. Donc, je vous rappelle que l'évangile de Jean, c'est l'évangile du nouvel exode aussi. C'est-à-dire, je l'avais dit à la fin de mon propos précédent, le Dieu, le Verbe, descend, donc l'exode descendant, pour que, à sa suite, nous puissions, nous, entreprendre un exode ascendant vers le Père. Donc, c'est un exode par l'épisode du baptême, c'est un exode nouveau qui s'ouvre vers une nouvelle création. Mais cette nouvelle création, comme je le disais tout à l'heure, elle passe par l'eau, par le sang et par l'esprit. Et vous remarquerez peut-être que c'est une esquisse des trois mystères de l'initiation chrétienne. Le baptême, la chrismation et l'Eucharistie. Ouais. On a déjà en germe, là, l'esquisse de ces trois mystères. Outre que on est dans la première révélation, dans la première théophanie de la Sainte Trinité. Alors ensuite, on va passer à partir du verset... oui, alors, il faut ajouter quand même que... À partir du verset 32, voici ce que dit l'Évangile. « Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Alors évidemment... Quand l'Évangile dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » C'est Dieu qui est derrière, bien sûr. Hein. Jean-Baptiste n'invente pas cette parole de lui-même. Bon, il la reçoit de Dieu, donc il reconnaît, parce que cette parole lui a été dite, il reconnaît avec... l'Esprit qui descend semblablement à une colombe. On ne sait pas très très bien, on parle de la colombe là, mais c'est... Est-on sûr que c'est l'animal en question? On ne sait pas. Le volatile en question, on ne sait pas. C'est semblablement à une colombe, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est quelqu'un de réellement mystérieux. Je veux dire, on le perçoit à travers...
Oui. Le texte grec dit bien comme.
Oui, comme.
Il faut beaucoup insister là-dessus.
Oui, il dit comme, donc, ou semblablement.
Mais... C'est ça.
Oui. C'est tout à fait de ça dont il s'agit. Donc, là, Jean-Baptiste, il va reconnaître. Parce que le Seigneur lui-même lui a dit. Donc, il va reconnaître. Il n'y a pas d'erreur possible. Il reconnaît en fonction de la parole qu'il a reçue que l'Esprit descendant sur celui qu'il va baptiser, c'est bien celui qui va baptiser du Saint-Esprit. Et c'est... Il a vu. Il y a tout un vocabulaire de la vision. Il a vu et il a rendu témoignage. Très important, ça, ce vocabulaire de la vision qu'on rencontre tout au long de ce chapitre. Hein. Jusqu'à l'appel des disciples, mais dans le témoignage de Jean-Baptiste, ce vocabulaire joue un rôle fondamental, parce qu'il est témoin oculaire de tout ce qu'il voit, et il le dit. Il rend témoignage de ce qu'il a vu, il rend témoignage de ce qu'il a entendu. Bon.
Donc, celui qui a vu a témoigné, et nous savons que son témoignage est juste.
Voilà. Hein? Voilà. C'est encore une parole que l'on reprend dans le rite de la proscomédie, et celui, l'un des soldats de sa lance lui transperça le côté au moment où on transperce l'agneau, et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véridique. Donc là aussi, vous voyez l'importance de la vision, l'importance du témoignage oculaire, parce que Je rappelle que si les évangiles ont plusieurs couches littéraires, ils sont tous l'œuvre des témoins oculaires. D'ailleurs, la qualité d'apôtre suppose le témoignage oculaire. Sinon, ce n'est pas les apôtres. Donc, les apôtres sont les témoins oculaires du Christ lorsqu'il était sur terre et de ce qu'il a fait, de son enseignement, de ses gestes, des signes qu'il a accomplis. Et donc là, on est bien également dans ce cadre. À partir du verset 35, encore un lendemain, hein, vous remarquez, donc on est sur une autre séquence. Il y avait donc la première séquence, le premier lendemain, Jésus qui vient et qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Le deuxième lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Donc il répète, hein, les deux disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ?» Alors c'est très, très curieux, parce que là, c'est la première parole de Jésus. D'abord, il vient d'être nommé, alors que précédemment, on parle de lui, mais sans nommer son nom. Et là, sa première parole, c'est une question. Intéressant, ça, hein ?« Que cherchez-vous ?» Sa première parole, ce n'est pas un enseignement ex cathedra ou je ne sais quoi d'autre de cet ordre-là, c'est « Que cherchez-vous ? » Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'enseignement du Christ tout au long des évangiles. C'est, il pose des questions pour mettre en mouvement ses interlocuteurs. « Que cherchez-vous ? » À un autre endroit, « Quel est ton nom ?» Vous possédez des Gadaréens. Hein ? On l'a lu il n'y a pas très longtemps, cet évangile. Bon, quel est ton nom ? C'est toujours des questions. À partir de ces questions, il y a une mise en mouvement de celui qui reçoit la question. Et la question, elle est en quelque sorte comme une flèche qui va transpercer une cible. Elle va concerner intimement celui qui la reçoit et elle va le mettre intérieurement en mouvement. Et ça, c'est un procédé qu'utilise le Christ tout au long de l'Évangile. C'est très important, ça. Très, très important. Parce que s'il avait commencé par délivrer quelque chose qui était extérieur à la personne, ça aurait pu poser beaucoup de difficultés quant à la réception de ce qui serait dit. Alors que là, ça leur est adressé directement aux deux disciples. C'est des disciples de Jean-Baptiste, hein, mais qui vont suivre le Christ. « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Venez et voyez. » Encore deux termes qui sont récurrents tout au long de l'évangile de Saint Jean. Pourquoi le Christ utilise cette manière de faire ? On peut s'interroger. Eh bien, peut-être quelque part, il faut se demander si, à ses yeux, quelle est la valeur de l'homme. L'homme, il vaut par sa recherche, en définitive. Et par cette question toute simple, au fond, c'est tout simple, que cherchez-vous ? Il va le mettre en mouvement, cet homme, enfin ces hommes, puisque ce sont deux disciples. Et puis, n'est-il pas dit dans l'évangile de saint Matthieu, cherchez et vous trouverez. Mais pour trouver, il faut chercher. C'est-à-dire qu'il faut se mettre intérieurement en mouvement. Sinon, on ne trouve rien. Et alors, ce que demandent les disciples, où demeures-tu ? Alors, où demeures-tu, ça revient à une très grande quantité de fois dans l'évangile de Jean. Je crois que ça revient près d'une quarantaine de fois, si mes sources sont exactes, entre 35 et 40 fois. « Où demeures-tu ? » C'est très énigmatique.
C'est,
hein.
Oui, ça a double sens.
Ah oui. Bah, de toute façon, ça, l'évangile de l'évangile de Jean utilise en permanence ce qu'on appelle la double entente.
Oui.
Donc des termes ou des expressions à double entente. Oui. Ça, c'est un procédé. D'ailleurs, c'est un procédé qui est connu dans le judaïsme. Hein. Dans les Midrash, par exemple, la double entente, ça fonctionne en permanence. Bon, donc n'oubliez pas que, et quand on étudie de près l'évangile de Jean, on s'aperçoit qu'on est bien dans un milieu sémitique, dans le milieu des Hébreux, et que bien que le texte pour nous soit donné en grec, on a bien affaire, s'agissant des disciples du Seigneur, à des Hébreux qui pensent avec ces catégories là. Donc, et c'est des hommes complètement immergés dans la parole divine, de telle sorte que on se retrouve en pays de connaissance. Mais alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant à souligner. Vous remarquerez que à partir de ce moment-là, on parle de titres, ce qu'il est convenu d'appeler des titres christologiques, et on va jusqu'à parler de fils de Dieu. Nathanaël, plus loin, dira « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Et le Christ lui-même parlera du Fils de l'homme, se définira avec ce terme de Fils de l'homme qu'on trouve dans la prophétie de Daniel. On trouve ça donc au verset 51. Mais si le vocabulaire de l'évangile de Jean est le vocabulaire de la Bible hébraïque, si ces titres Messie, Rabbi, fils de Dieu, roi d'Israël, tout ça, ce sont des titres que l'on rencontre dans la Bible hébraïque qui sont appliqués au Christ. Il y a quand même, là aussi derrière ces titres, une double entente, mais qui va se dévoiler très progressivement tout au long de l'évangile, puisque l'évangile de Jean, c'est quand même bien aussi l'évangile, comme les autres d'ailleurs, mais plus spécifiquement celui-là, du dévoilement de la personne du Christ. Qui est le Christ? Et plus qu'en tout autre lieu, l'évangile de Jean va parler très ouvertement de la divinité du Christ. À plusieurs reprises, le Christ va utiliser pour lui-même le vocable que Dieu utilise en face de Moïse dans l'Exode. « Je suis hein? ».« Ego eimi, je suis ». Bon, et ça, c'est un titre qui appartient à Dieu. Et le Christ, par exemple, à la fin du chapitre 8, hein, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, il reprend expressément l'expression, le terme, la terminologie d'Exode 3,14. Alors, ce qui est intéressant à considérer aussi, c'est que derrière ces titres que le premier chapitre va attribuer au Christ, Rabbi, Maître, Messie, Saint Jean ajoute ce qui signifie Christ, roi d'Israël, c'est Nathanaël qui va le reconnaître comme ça, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, fils de l'homme, mais tous ne vont pas d'entrée de jeu accéder à la compréhension de ce que signifient vraiment ces titres messianiques. Parce que n'oubliez pas, par exemple, que la lignée David et la lignée de David reçoit ce titre, ces titres-là. David, donc, il est comme un messie, en quelque sorte. Il est le roi d'Israël, il est comme un messie, mais ça n'est qu'un homme. Dans la conception qu'avaient les Juifs de la messianité, c'était un homme suréminent, certes, mais ça n'était qu'un homme. Alors que là, et de manière très progressive, dans l'évangile de Jean, on va voir que ces titres qui sont empruntés donc à l'humus biblique, dans lequel Saint Jean et les autres évangélistes se nourrissent, ont une signification nouvelle. Les évangélistes ne font pas que reprendre des titres traditionnels. Il y a derrière la reprise de ce lexique traditionnel des significations nouvelles. Parce qu'il y a une nouveauté absolue, c'est celle de l'incarnation de Dieu. Ça, je veux dire, l'incarnation, c'était impensable en milieu juif. C'était impensable. Que Dieu se fasse homme, c'était inimaginable. Donc, quand on va parler du Messie, dans l'évangile de Jean, on va bien sûr reprendre le terme traditionnel, celui qu'Israël attendait, mais ce Messie-là, il va avoir une nouveauté totale. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va être parmi les hommes, c'est Dieu lui-même qui prend la nature humaine, qui va assumer complètement la nature humaine par l'incarnation. Donc c'est une nouveauté au sens vraiment propre du terme. Parce que fils de Dieu, roi d'Israël, ça s'applique aussi donc au roi. Vous connaissez tous, je suppose, les psaumes royaux, ce qu'on appelle les psaumes royaux. On parle du roi comme fils de Dieu. Mais le roi n'était qu'un homme. C'est pas Dieu le Verbe incarné dans les psaumes. Et ça n'est qu'un homme. C'est un homme suréminent qui est guidé par Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu, mais c'est un homme. Et uniquement un homme. C'est pas Dieu incarné. Donc vous voyez, quand Nathanaël, à ce point où nous sommes dans l'Évangile, va dire « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël », il n'est pas tout à fait certain qu'il en ait une compréhension plénière encore à ce moment-là. Hein? D'ailleurs, avant, c'est si vrai que quand Philippe va le voir et qu'il lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph », Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Parce que le Messie devait venir de la cité davidique, de Bethléem, de la cité du roi David. Donc, évidemment, Jésus est né à Bethléem, mais il est galiléen, il est de Nazareth. Donc, la réaction de Nathanaël, elle est tout à fait compréhensible. Il dit, non, ça peut... dans un premier temps, elle est compréhensible, parce qu'il dit, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth ? Sous-entendu, le Messie ne peut pas naître, ne peut pas être de Nazareth. Il ne peut être que de Bethléem. Voilà, donc cette compréhension de ce que nous appelons nous aujourd'hui, bon, dans le récit évangélique, ce n'est pas énoncé comme tel, mais cette compréhension des titres qui sont, des titres christologiques qui sont donnés à Jésus par Jean-Baptiste, et puis par les disciples de Jean-Baptiste, puis par Philippe et par Nathanaël, cette compréhension, elle va être tout à fait progressive. Et on constatera d'ailleurs tout au long de l'évangile de Saint Jean combien la compréhension de la véritable nature de la personne du Christ, elle est tout à fait progressive. Hein. Il y a beaucoup de récits. Moi, je trouve ça très intéressant dans l'évangile de Jean de constater que dans un dialogue, le Christ dit une chose et les apôtres comprennent autre chose. Hein? Bon, par exemple, il y a l'exemple fameux dans le récit avec la Samaritaine. Hein? J'ai pris une nourriture que vous ne connaissez pas et les apôtres se disent... Quelqu'un lui a apporté à manger. Il y a un décalage quasiment permanent. Parce que le mystère du Christ est très grand et c'est tout à fait normal que les apôtres n'y aient pas accédé comme ça d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, ce mystère se dévoile, se révèle progressivement selon une pédagogie divine qui est à l'œuvre. Par l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans les hommes, y compris donc dans les apôtres, qui sont les témoins oculaires du Christ. Donc vous voyez, c'est... il ne faut pas penser, quand on lit la fin de... La dernière partie de ce chapitre, de ce premier chapitre de Jean, que les désignations que l'on donne au Christ, que Nathanaël, Philippe, Nathanaël donne au Christ, c'est une acception pleine et entière de ce que nous connaissons, nous. Hein ? Fils de Dieu, pour nous, ça a une signification précise. C'est le Verbe éternel qui a pris la nature humaine. Donc, c'est l'un de la Sainte Trinité. C'est celui qui est engendré avant tous les siècles du Père. Bon, et là, on n'en est pas là encore. Hein. On n'en est pas là, d'autant que ce sont des titres, comme je le dis, je me répète, ce sont des titres qui sont connus dans la littérature biblique. Hein. Le roi est fils de Dieu. Hein, c'est... on le désigne comme tel dans les psaumes royaux, mais pas dans le sens où nous retenons ce vocable maintenant, enfin maintenant, depuis le début de l'Église. Donc, ensuite, à partir du verset 39, et j'en terminerai là, il y a... oui, alors, j'insiste quand même sur le « venez et voyez ». Venez et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. C'est intéressant ce venez et voyez, parce que bon, ça revient, c'est récurrent dans l'Évangile. Mais c'est intéressant parce que on voit que le Christ respecte la liberté humaine, en fait. Bon, il met son interlocuteur intérieurement en branle en lui posant une question. Et les deux disciples répondent par une autre question, « Où demeures-tu ?» Et le Christ dit « Venez et voyez. » C'est-à-dire que il les appelle, eux et leur liberté, à venir et à voir. Là, il y a quelque chose de très fort quant au respect de la liberté, je veux dire. Il s'instaure entre le Christ et celui ou ceux à qui il parle, une relation de personne à personne. C'est-à-dire, c'est pas une puissance qui considère des individus comme ça et qui leur dit « faut faire ci ou ça », mais il constitue ses interlocuteurs comme des personnes libres et il appelle cette liberté à rejoindre la sienne. Hein ? Venez et voyez. C'est très fort, hein, cette expression. Et ensuite, bon, bah, ça, le chapitre se termine par l'appel des disciples. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Donc, André est disciple de Jean, et il va rejoindre Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Simon, c'est Shimon, ça signifie l'écoutant, hein, celui qui écoute. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, l'écoutant, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas, ce qui signifie Pierre. Et comment ne pas être frappé par un autre détail de la personne du Christ, c'est le regard du Christ, le regard qu'il pose sur les gens. De la même manière que la question qu'il envoie est comme une flèche qui atteint sa cible et qui met en mouvement intérieurement celui qui reçoit la question, comment ne pas être, j'allais dire admiratif, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais comment ne pas être frappé par la puissance de ce regard ? Il regarde, quand il appelle ses disciples, il les regarde, il les voit, et il leur dit « Toi, suis-moi ». Alors déjà, quand il constitue sa troupe de disciples, c'est lui qui choisit. Or, ça, c'est nouveau aussi, hein, dans l'ensemble, disons, des rabbis itinérants que l'on trouve dans ce temps-là, les disciples allaient vers tel ou tel maître qui leur convenait. Mais là, ce n'est pas le disciple qui choisit son maître et qui lui donc fait obéissance, c'est le maître qui choisit les disciples. Et à chaque fois, il y a cette question du regard. C'est vraiment dans ce chapitre, les verbes qui renvoient à la vision, c'est fondamental. Qu'il s'agisse du Baptiste, qui a vu, qui témoigne. Qu'il s'agisse des disciples du Baptiste, qui ont vu le Christ et qui vont vers lui. Qu'il s'agisse du Seigneur lui-même, qui, ayant vu Simon-Pierre, Simon, et qui lui donne un nom nouveau, Képhas, Pierre. C'est vraiment très très frappant, cette importance du regard, de la vision. Et encore, plus loin, il y a Philippe et il y a Nathanaël. Et quand Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, on parlait, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, bon, ok, ça je l'ai lu. » Et Philippe lui répondit, après que Nathanaël ait dit « Mais de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon ?» Philippe dit « Viens et vois !» Il reprend « Venez et voyez, viens et vois !» Bon, et... Jésus voyant venir à lui Nathanaël, parce qu'il l'a vu, Nathanaël, qui est un sage d'Israël, qui est sous le figuier. Qu'est-ce que ça signifie être sous le figuier? Ça signifie méditer la loi. On médite la loi sous le figuier. Donc, il y a un trait qui nous fait découvrir Nathanaël comme un sage d'Israël, qui est sous le figuier, qui médite la loi. Il y a une réminiscence aussi du psaume 1. Hein. Celui, bienheureux, celui qui médite la loi du Seigneur jour et nuit, il sera comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Hein. Donc, vous voyez, toutes ces images de l'Ancien Testament qui sont sous-jacentes dans ce récit. Et le Christ l'a vu, là encore, et il lui dit... de venir à lui. Il le reconnaît comme un véritable Israélite en lequel il n'y a point de fraude, dit-il. Et c'est là que Nathanaël s'écrit en donnant ses titres « Rabbi, maître, tu es fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Parce que le roi et le fils sont dans la même personne. Et là, donc, le premier chapitre se termine. Le Christ dit, bon, c'est bien, mais tu vas voir des choses plus grandes encore. Tu vas voir le ciel ouvert et désormais les anges monter et descendre. C'est-à-dire que là, c'est la thématique de l'échelle de Jacob qui revient. Par ce mouvement d'exode descendant et... qui appelle lui-même un exode ascendant, le ciel est à nouveau ouvert, et le Christ est lui-même l'échelle sur laquelle descendent et montent les anges de Dieu. Ils montent sur le Fils de l'homme, qui est un titre qui vient du livre de Daniel, au chapitre 7, je crois, et qui renvoie... au temps apocalyptique. Parce que vous savez que les temps messianiques et les temps apocalyptiques sont intimement liés. Le Messie, il vient à la fin des temps. Quand les temps sont accomplis, le Messie vient. Et donc le Christ, qui est le Messie d'Israël, vient et c'est la marque de l'accomplissement des temps. Donc ce qu'on appelle les temps apocalyptiques, les temps... Des fins dernières. Voilà, donc après, donc au terme de ce chapitre 1, qui a vu l'énoncé du prologue, du témoignage du Baptiste, de l'appel des premiers disciples, on va rentrer dans le livre des signes, avec le premier d'entre eux, les noces de Cana. On va en parler la prochaine fois. Mais, donc, on a vu qu'avec ces trois termes, l'eau, l'esprit, donc le baptême d'esprit qui fait entrer dans la nouvelle alliance et l'alliance qui ouvre sur les noces. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'alliance en Jésus-Christ ? C'est les noces de Dieu avec l'humanité. Donc, le vin de Cana va être très abondant parce que, comme on dit, je ne me souviens plus exactement la terminologie, quand on fait la fraction du pain, le Christ qui se donne en nourriture aux fidèles, qui est partagé mais non divisé, et qui est toujours mangé, qui ne s'épuise jamais. De la même manière, le vin de cette alliance, il ne se tarit jamais. Il ne se tarit jamais. Et on verra, en examinant le récit des noces de Cana, que ça a une signification très très précise. Et la quantité même de vin est une indication très très précieuse sur ce que signifie cette alliance nouvelle. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que j'ai été assez clair ? N'hésitez pas si vous...
J'avais une question oui. Sur ce que vous avez dit, André, il dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et si je me souviens bien, dans les synoptiques, je ne sais peut-être dans Matthieu, c'est Pierre qui... Okay. Et c'est lui qui est oui. Le premier à dire « Tu es le Messie ». Donc, il y a une différence oui. Entre Jean et je ne sais plus, peut-être Matthieu.
La Philippe de Césarée.
Oui. Mais ça, c'est la confession de foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est un autre ouais. Épisode. Hein. Ça, c'est... Ouais. Parce qu'en fait, c'est André le premier appelé. C'est André qui va chercher son frère Shimon. Donc. C'est André qui est le premier appelé, lequel André d'ailleurs est un disciple du Baptiste, qui va suivre Jésus. C'est-à-dire que le Baptiste, par son rôle de précurseur, il annonce le Messie qui vient pour il annonce le Messie qui doit être manifesté à Israël. Son baptême d'eau est la préfiguration du baptême de l'Esprit, et en même temps. Il a un autre rôle qui consiste à donner au Christ des hommes qui vont constituer sa communauté, qui vont passer de sa troupe de disciples à lui, à celle du Christ. C'est d'ailleurs tout à fait clairement dit. Hein, il est dit que... Vous voyez, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Il resta auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure, André, frère de Simon. Donc il est dit que, à partir de là, ils vont attacher leurs pas dans ceux du Christ. Ils vont devenir ses disciples. Parce que le Baptiste, il a accompli sa mission. En témoignant de celui qui vient, de celui qui le précède, dont il n'est pas digne, ça j'ai oublié de le dire, mais dont il n'est pas digne, de délier la sandale, la lanière de sa sandale, ça renvoie, bon, bien sûr, à l'humilité du Baptiste, ça renvoie au geste de l'esclave vis-à-vis de son maître, mais ça renvoie à une scène vétérotestamentaire du Lévirat. C'est-à-dire que la sandale, ça renvoie donc au livre de Ruth, au 4e chapitre, et la sandale, c'est... on manifeste un rachat. Et donc... Lui, il n'est que le précurseur et il n'est pas digne de racheter quoi que ce soit. Seul le Christ a le pouvoir du rachat. Bon, donc à partir de là, il est tout à fait normal, si je veux m'exprimer ainsi, que ses disciples aillent deviennent les disciples du Christ. Parce que c'est l'un des aspects de son rôle, c'est de témoigner pour celui qui vient, celui qui va être manifesté par l'onction messianique du baptême, qui va être manifesté à Israël, et celui qui va chercher ses disciples, et les disciples, va appeler ses disciples, pas les chercher, appeler ses disciples, et les disciples de Jean vont suivre le Christ. Parce que Jean le veut ainsi.
Vous avez abordé ce sujet la dernière fois, je n'étais pas là, mais vous avez parlé des 7 signes. Donc,
oui.
Un miracle, des signes.
Oui.
Pourquoi il parle des signes et pas de...
Saint Jean parle de signes, séméion, séméia au pluriel.
Vous appelez les miracles c'est... des signes.
Oui, parce que le signe, il est pas là pour manifester une sorte de puissance surnaturelle. Il est là pour, là encore, que cherchez-vous ? Question. Et le signe est là pour aller à l'intérieur de ceux qui reçoivent ou qui sont témoins du signe pour faire éclore ou grandir la foi. C'est pas là pour manifester une puissance... extérieur à l'homme, que l'homme ordinaire n'a pas et que lui a. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent il dit, après avoir accompli les signes, n'en parlez à personne. Ce qui est évidemment tout de suite transgressé. Ceux qui sont bénéficiaires du signe, ils s'empressent d'aller rendre gloire à Dieu et de dire « nous avons trouvé un grand prophète », etc. Enfin, vous connaissez les expressions dans l'Évangile s'attachant à ça, alors que le Seigneur avait demandé de ne pas en parler.
À votre avis, pourquoi est-ce que Jean prend la peine de préciser que c'était la 10e heure ? Parce que, on peut penser que c'est pas simplement
Ah oui.
Par hasard.
Non, c'est pas.
Ça signifie quelque chose.
C'est pas du tout un hasard.
Voilà.
Déjà, la 10e heure, si vous voulez, c'est. On n'est pas loin de la tombée du coucher du soleil.
Oui.
Hein,
oui.
Et la 10e heure, c'est pas loin de l'ouverture du jour saint, du Shabbat. Bon, ça c'est une chose. Mais le chiffre 10, il a une signification évidemment très haute, parce qu'il renvoie aux 10 paroles du Sinaï. Ce qu'on appelle les commandements, mais c'est pas la terminologie qui convient le mieux. C'est les 10 paroles. Comme il y a les 10 paroles de la création. Ça renvoie à ça. Donc,
c'est la perfection.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et n'oubliez pas que l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile d'une nouvelle Genèse. Et que au cœur même du prologue, au verset 13, « Mais à tous ceux qui... je reprends exactement. Hein, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est-à-dire qu'au cœur du prologue, il y a la recréation. Le Dieu s'est fait homme pour une œuvre admirable entre toutes, c'est-à-dire c'est... Recréer, c'est une œuvre de recréation. Sa venue correspond à une œuvre de recréation. Le baptême de l'Esprit, c'est une œuvre de recréation qui rend possible les noces, les épousailles. Vous voyez ? Donc, ce chiffre 10 fait référence aux 10 paroles, aux 10 paroles de la création. Et quand on le met en résonance avec le verset 13, du prologue, il entre en résonance avec cette œuvre que le Christ est venu accomplir, cette œuvre de recréation.
Quelqu'un demande qu'est-ce que vous avez comme édition du Nouveau Testament
là présentement là.
Ah,
bah j'ai le c'est la Bible Second. J'utilise donc le texte grec interlinéaire, mais bon, c'est intéressant. Dans cette édition en français, là, du Nouveau Testament interlinéaire grec-français, il y a le texte grec, le texte de la Tobe, et le texte dit en français courant, que personnellement je n'utilise jamais, parce que je ne vois pas très bien ce que ça veut dire de traduire la Bible en français courant. Mais sinon, moi j'utilise la Tobe, la dernière édition de la Tobe de 2010, parce que c'est la traduction œcuménique de la Bible. L'édition de 2010, elle est intéressante en ce sens que elle comporte tout le canon de l'Église orthodoxe, ce qu'on appelle les anagnoskomena, c'est-à-dire les livres qui sont qui viennent en plus du canon hébraïque et qui sont donc qui appartiennent au canon des Septante. Donc dans l'édition de la Tobe de 2010, ils y figurent tous. Et donc c'est des livres que nous utilisons. Alors il y a les quatre livres des Maccabées, il y a les quatre livres d'Esdras, il y a la prière de Manassé, tout ça, ça figure. Dans l'édition seconde, ça ne figure pas, ça. Donc j'utilise, mais c'est un gros pavé. Alors bon, là, ça c'était plus facile pour moi de venir avec celui-là. Voilà, c'est tout.
J'ai une question concernant les disciples, si vous permettez.
Oui.
Il y a une femme hiérophore qui s'appelle Salomère, et qui, la tradition, on dit que c'était une fille de Joseph, le fiancé de la Vierge Marie, et que cette Salomé a épousé Zébédée, le père de Jean et de Jacques.
Ouais.
Et du coup, avec Saint Jean-Baptiste, qui aussi est en relation avec la famille de Jésus, on se retrouve avec des disciples, avec plusieurs des disciples proches, en famille, quoi.
Tout à fait. Tout à fait.
On ne parle pas beaucoup de ces choses-là, mais...
Non,
moi,
c'est vrai.
Ça me fait pas bonne impression, moi.
Pas bonne impression ?
Non, pas bonne impression.
C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup.
C'est pas une affaire de famille, ce qui vient de se passer là. Un clan qui prêche et qui est venu de Galilée, et ils se connaissent tous, ils sont tous du même entourage, ils sont relatifs, comment on dit en français.
Oui, mais bon, ben. C'est quelque part normal, parce que bon, la société d'Israël, c'est une société tribale. Hein. Donc, les sociétés tribales, c'est des liens familiaux, d'ailleurs, très élargis. C'est pas du tout la famille telle qu'on l'entend aujourd'hui. La compréhension de la famille d'aujourd'hui, c'est extrêmement restreint, alors que dans la société d'Israël de ce temps, c'est large. Donc, effectivement, il y a des liens familiaux. Ben, le Baptiste, il est cousin du Christ. Ben oui, Marie et Élisabeth sont cousines. Donc, mais...
Parce que tout est si épiphanique, si je peux être ironique, si vous me permettez. Tout est si épiphanique, tout ça tombe du ciel, et comme s'ils ne se connaissaient pas, peut-être qu'ils se connaissaient s'ils étaient cousins, ou s'ils étaient beaux-frères, ou...
Oui.
Si... N'est-ce pas ?
Ça, l'Évangile ne nous dit rien là-dessus. Ça, c'est bon. Mais en tout cas, je veux dire, effectivement, quand l'un des membres du clan est touché par la parole, on le voit répandre la parole autour de lui, et ben, en commençant par ceux avec lesquels il a des liens familiaux rapprochés ou éloignés. Mais ça, bon, c'est un processus tout à fait normal.
D'ailleurs, on voit ses cousins qui ne croient pas en lui et
bien sûr.
Qui lui font mauvaise presse. Et...
Bien sûr. Oui, ça c'est... Alors attention, dans c'est la fameuse question que beaucoup d'exégètes en Occident ont quelques gênes avec ça quand on parle des frères du Seigneur dans l'Évangile. Puisque, bon, lorsque la Mère de Dieu... épouse Joseph. Joseph, donc, il a quatre fils et trois filles, si mes souvenirs sont exacts. Selon la loi juive, la mère de Dieu devient la mère de toute la maison. Elle n'est pas l'enfantrice des enfants de Joseph, bien sûr, mais elle est, au regard de la loi, elle est la mère de toute la maisonnée. Donc, les fils de Joseph sont les frères de Jésus, dans ce sens-là. Bon, mais ça, c'est une conception de la famille qui, pour nous, est étrange, mais c'est...
Il y a une question venue par Internet. Est-ce que l'incarnation était si étrangère à tous les Juifs ? Matthieu 26, 63, Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire, si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Et encore Matthieu 16, 15, 16, « Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Est-ce que l'incarnation était si étrangère à tous les Juifs ?
Ça, je serais présomptueux en répondant dans un sens ou dans un autre, je ne sais pas, mais... Je pense que quand le grand prêtre pose cette question au Christ, il n'envisage pas un seul instant qu'il ait le Verbe de Dieu devant lui incarné. Ça, pour moi, ça me paraîtrait...
Il y a une autre question qui est venue, qui avait peut-être un autre moment à la poser. Quelles sont les références concernant ce prophète dont parle Moïse dans le Deutéronome ?
Eh ben c'est Deutéronome 18-15. Deutéronome 18-15, où on parle du prophète. Bon, ben c'est le prophète des derniers temps. Hein, je veux dire, c'est lié aussi aux fins dernières, ça. Hein, je veux dire, c'est pas un prophète qui succède immédiatement à Moïse. C'est celui qui vient lorsque les temps sont accomplis. C'est pour ça qu'il y a ce jeu de questions entre est-ce que tu es le Christ, le Messie, donc, le Élie qui annonce celui qui doit venir, et où es-tu le prophète ? Il y a des incertitudes, là. Donc les prêtres, les lévites et les pharisiens posent ce genre de questions, parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais ça, bon, c'est Deutéronome 18-15. Voilà, donc la prochaine fois, c'est le 13 décembre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller. Hein, mais c'est le 13 décembre, et on parlera des noces de Cana. Premier signe. Premier des signes est l'un des plus hautement significatifs.
Merci.
Voilà.